Bon dimanche, RVE, il est 9h.
Qui accroche Zidane. Zidane lui fait remarquer. Mais pourquoi? Il est avec Buffon, tiens. On voit Zizou. Oh Zinedine.
Pas ça, Zinedine.
Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Aïe. Oh non, Zinedine. Il va sortir un carton, il va voir Zidane. Et c'est carton rouge, oh non. Et voilà ce que je redoutais, c'est épouvantable.
Oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. On se devait effectivement d'avoir une énorme pensée ce matin pour celui qui nous a quittés donc cette semaine à l'âge de 49 ans, des suites d'une crise cardiaque. C'était le meilleur d'entre nous et on va lui dédier donc ce matin à Thierry Gilardi. Eh bien, nos émissions Tribune Sport et Tribune Foot, on reviendra naturellement sur l'hommage qu'on lui a rendu durant cette semaine dans nos différents flashs d'infos de mercredi. Donc c'est un peu plombé la semaine, mais en tant que journaliste et en tant qu'amoureux du sport, il aurait voulu que l'actualité sportive donc continue. Alors elle va continuer sur l'antenne d'Hervé, en dehors de l'hommage donc qu'on rendra à Thierry Gilardi. On reviendra sur ce qu'on vous a fait vivre la semaine dernière, donc concernant donc les 10 km de la ville de Rambouillet, course à pied. On reviendra donc sur cette victoire d'un coureur de l'aviron bayonnais. On parlera aussi de la rentrée des courses à l'hippodrome de Rambouillet en compagnie d'Éric Poisson. Et puis ce matin, alors que nous sommes revenus à l'heure d'été, il est bien 9h02, on va parler de sport automobile avec nos invités qu'on est ravis chaque année d'accueillir, à commencer par Lionel Guiringuelli. Lionel, bonjour.
Bonjour à tout le monde, bonjour à tous les Rambolitains et Rambolitaines déjà, et puis Lionel, tous les alentours.
Ouais, Lionel qui était venu nous faire une rétro des sports mécaniques et de la voile au mois de décembre.
Tout à fait.
Là, on est venu parler de ce qui attend donc Pierre Buret, qu'on salue.
Oui, bonjour ça à va, tout Pierre. Le monde, ça va.
Et puis Philippe Bauer aussi, qu'on salue.
Bonjour à tous.
On va parler de ce qui les attend pour cette année 2008, donc en course à pied. En course automobile, la course à pied, ça sera pour...
On fait aussi de la course à pied de temps en temps, quand on court après la caisse à outils.
Très bien, allez, hommage maintenant donc à Thierry Gilardi, donc, tel qu'on lui a rendu cette semaine dans nos différents flashs d'infos.
Philippe, bonjour.
Oui, bonjour.
Le monde du sport est en deuil avec la disparition de Thierry Gilardi, décédé mardi après-midi. Thierry Gilardi, monsieur foot sur TF1. Alors, Philippe, j'imagine que pour toi, c'est un jour de grande tristesse. Toi qui, comme Thierry Gilardi, est un grand passionné de sport. D'ailleurs, tu viens de fêter les 20 ans de Tribune Sport sur RVE. Alors, quel est ton sentiment, Philippe, avec la disparition de ce grand journaliste sportif?
Oui, c'est vrai que ça a été un coup de massue, quand on l'a appris hier aux alentours de 22h, je crois que tous les gens du métier, tous les journalistes sportifs étaient tous abattus parce que, faut le dire, Thierry Gilardi, c'était actuellement le meilleur d'entre nous, c'était donc effectivement quelqu'un qui avait à la fois beaucoup de chaleur, beaucoup de rigueur dans sa profession, dans son métier, qui faisait l'unanimité dans le monde du sport, que ce soit dans le foot ou dans le rugby, et puis qui naturellement était un passionné parce que c'est avant tout ça... la caractéristique première de Thierry Gilardi, c'est vrai que c'est un énorme coup de masse que tout le monde du journalisme sportif donc vient de vivre.
Alors Philippe, évidemment Thierry Gilardi ne sera pas présent pour les futurs grands événements sportifs qui vont se dérouler très prochainement.
Il y avait naturellement la perspective pour Thierry des mois assez fabuleux d'aller vivre l'Euro de foot, et puis il devait même partir ensuite au mois d'août pour TF1 et pour LCI sur Pékin. C'est vrai qu'on va avoir du mal à imaginer ce soir le France-Angleterre et tous ces grands événements sportifs qui arrivent dans les prochains mois sans Thierry Gilardi. Il faut dire, Jean-Pierre, que Thierry Gilardi, il était quand même diplômé de Sciences Po, il avait 49 ans. Il était né le 26 juillet 58 et il avait commencé à France Inter en 1982 sous l'égide de Jacques Vendroux. Et puis très brièvement, très bizarrement, vers 2007, il avait pris une autre bifurcation. Il était parti pendant quelques temps comme directeur de la communication à la FNAC. Et puis c'est Charles Bietri qui est allé le rechercher peu après la création de Canal+. Et là, bah, ça a été, il a décollé dans sa carrière. Ça a été jour de foot, ça a été l'équipe du dimanche et puis la soirée de Ligue des Champions. Il est devenu le commentateur attitré du foot et du rugby. Et puis en 2004, parce qu'il fallait rajeunir Téléfoot, parce qu'il fallait rajeunir les commentaires des matchs de foot à la télé, eh bien, donc TF1 est allé les chercher. C'est vrai que depuis, eh bien, Téléfoot avait retrouvé un certain brio, un certain dynamisme. Et puis Thierry Gilardi, justement, aux côtés de Jean-Michel Larquet, avait su garder donc le commentaire style Canal, tout en, en l'adaptant à une chaîne grand public comme TF1. La transition entre donc Thierry Roland et Thierry Gilardi, c'était effectivement remarquablement bien faite. Et puis en plus, Thierry Gilardi, il avait fait beaucoup de, il avait commenté le rugby et il avait fait beaucoup d'audience avec l'équipe de France. Donc pour le rugby, ça avait été aussi une belle réussite. Il était en parallèle parce que c'était aussi avant tout un amoureux du sport et un grand professionnel. Il était aussi vice-président de l'équipe de rugby du Stade Français et membre du Variété Club de France. Et puis il avait une particularité, c'est qu'il était un tout petit peu sorti du sport. Il avait aussi, pendant qu'il était à Canal, eh bien, il avait présenté durant une saison, je crois, la tranche d'info du matin. Et puis, il avait fait de même en rentrant sur LCI. Et je pense que dans les années qui seraient arrivées, Thierry Gilardi aurait vraisemblablement peut-être essayé de bifurquer et pourquoi pas de prendre en plus du sport un magazine d'info ou pourquoi pas un jour la présentation du journal télévisé. Je crois que c'était aussi parmi ses projets parce que c'était un homme curieux de tout, un grand amoureux du sport certes, mais aussi un homme profondément donc amoureux et perdu de son métier. Oui, puis en plus c'était quelqu'un qui certes, bon, parfois émettait des certaines critiques, mais jamais des critiques méchantes, toujours des critiques constructives, qui allaient toujours dans le sens du sport et de l'événement sportif. C'est pour ça qu'il faisait cette unanimité. Alors il était un peu parfois soupolé, hein, certains du côté de Canal l'appelaient la bouillotte, parce que c'était quelqu'un qui était très rigoureux, hein, qui était très exigeant, mais exigeant avec lui-même et toujours pour dans un même sens, c'est-à-dire le fait du travail bien fait et surtout donc la reconnaissance des téléspectateurs et puis l'amour du sport. Donc il faisait cette unanimité parce que jamais il n'avait émis le moindre critique négative, même un match qui était moyen, qui était mauvais, Gilardi savait le dire, mais il le savait le dire avec les bons mots. D'ailleurs, il y avait les quelques mots forts qu'a employé Gilardi au moment de l'expulsion de Zidane sur le match, la finale du Mondial France-Italie. Je crois qu'en quelques mots, il avait résumé l'opinion générale des millions de Français qui suivaient donc cette finale devant leur poste ce jour-là.
Donc Philippe, ce soir, ça va se dérouler de quelle manière, les commentaires sur ce France-Angleterre?
Bon, enfin, c'est vrai que dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, des matchs de foot et des téléfoot sans Thierry Gilardi, ça va faire drôle. Et qui était actuellement, je dis, je le répète, peut-être le meilleur d'entre nous.
Voilà, donc c'était au lendemain, hein, donc de la mort de Thierry Gilardi. Il y a un petit rectificatif, mais ça c'était dû à l'émotion. Quand il avait bifurqué, c'était en 87, hein, et pas en 2007, qu'il avait donc bifurqué pendant quelques mois sur la FNAC avant donc de revenir dans le journalisme à la demande de Charles Bietri. On va simplement rappeler qu'il y aura un autre hommage qui sera rendu à Thierry Gilardi tout à l'heure à 10h50 dans l'émission de nos amis de Téléfoot, et puis que ses obsèques seront donc célébrées demain à 15h à Montfort-Lamaury. C'est vrai que ça nous a un peu plombé la semaine, hein. Lionel, tous les amoureux du sport ont été une terrible injustice à 49 ans. Hein.
C'est un peu jeune quand même, parce que cet âge-là quand même. Mais bon, le destin veut les choses et on est impuissant devant malheureusement le problème. Et, on ne comprend pas trop, c'est la vie.
Et pour la petite histoire, il avait commenté également le sport automobile à son arrivée à Canal. Je crois qu'il avait commenté Indianapolis, hein, c'était un journaliste complètement polyvalent.
Ah oui, tout à fait. C'est quelqu'un qui savait parler de tout, quoi.
Allez, un petit break de pub. Et puis la vie sportive continue. Donc on va parler sport automobile. Et puis on reviendra sur les 10 km de Rambouillet. Tout en disant qu'on dédie ce matin donc ces deux émissions, Tribune Sport et Tribune Foot, à Thierry Gilardi. Allez, on va donc revenir maintenant sur ce qu'on vous a fait vivre la semaine dernière, hein, donc dans le parc du château de Rambouillet. C'était l'édition des 10 km. D'ailleurs, on a retrouvé nos studios parce qu'on a vécu pendant deux semaines la course à pied à Rambouillet. D'abord le semi-marathon il y a 15 jours, gagné par un Breton, Vincent Rioux. Et puis la semaine dernière, donc ces 10 km dans le parc du château, gagné par un Basque, vous voyez, de l'aviron bayonnais. Donc les provinciaux ont été les maîtres cette année en matière de course à pied. Sur Rambouillet, une victoire tout à fait limpide, hein, puisqu'il est parti dès le départ, il n'a plus jamais été rejoint, et en homme fort, donc il s'est imposé en 31 minutes et 44 secondes. Il est à 30 secondes du record d'Ivasov, hein, le russe qui était venu donc s'imposer en 31 minutes et 14 secondes en 2005. Il s'impose devant Oudjada, donc Lassem Oudjada, qui lui termine deuxième en 31 minutes 58 secondes. Troisième, Vincent Rousseau, qui était venu la semaine précédente, terminé quatrième donc du semi-marathon de Rambouillet. Et ben là, donc, Vincent est encore aux places d'honneur, en troisième en 32 minutes et 24 secondes. Quatrième, Fabrice Derue, qui avait terminé la semaine précédente troisième du semi-marathon de Rambouillet. Fabrice Derue qui est en pleine préparation, hein. C'est ce que nous a dit son entraîneur Thierry Quéret, qui suivait cette épreuve à nos côtés. Donc, quatrième, Fabrice Derue en 32 minutes et 30 secondes. Et puis, autre rambolitain bien placé, c'est Pascal Ruiz, qui termine cinquième en 32 minutes et 36 secondes. Ils ont pratiquement fait course commune avec Fabrice Derue, plus de 1000 participants donc à ces 10 km de Rambouillet. On a encore battu des records d'inscription, et on va simplement rappeler que la meilleure féminine, c'est Nadia Randam, donc de Chevilly-Larue, en 38 minutes et 44 secondes. Et chez les jeunes, tiens, ils vont être contents, Minime Benjamin, garçon et fille, sur 2400 mètres, la victoire, elle est revenue à un jeune coureur de Dreux, Wilfried, garçon, en 8 minutes 23 secondes, devant Simon Personneau de Rambouillet Sport en 8 minutes 32 secondes. Il y a un autre coureur de Rambouillet Sport, Philippe Costa, qui termine 4e en 8 minutes 47 secondes, et 5e donc Maxime Lemoine, lui aussi de Rambouillet Sport, 8 minutes 52 secondes. La meilleure féminine, c'est Manon Barzala de Chartres, 8 minutes 55 secondes. Et pour les poussins, poussines, super poussins et super poussines sur 1000 mètres, victoire de Simon Baudenon d'Ably chez les garçons, et chez les filles, victoire de Gwendoline Gaillon de Dreux. Donc vous voyez, ça a été vraiment un mois de course à pied. On a battu en tout cas des records, que ce soit sur le semi de Rambouillet ou sur les 10 km de Rambouillet. On a battu des records d'inscription. Il y a vraiment un gros phénomène de course à pied, et je l'ai dit, des provinciaux qui ont été les maîtres, hein, donc en matière de course à pied sur Rambouillet cette année, puisque Vincent Rioux, un Breton, s'est imposé dans le semi, et donc Jean Pétriac, un Basque de l'aviron bayonnais, s'est imposé donc dans ces 10 km. Et puis aujourd'hui, il y a un autre événement, c'est un tournoi de rugby du côté d'Orsay, qui regroupe donc le SCUF Orsay et l'équipe cadette de Rambouillet. C'est un tournoi qui se déroule à partir de 11h, hyper important, parce que le vainqueur, eh bien, il décrochera un billet pour les 32e de finale du championnat de France. Donc on va souhaiter bonne chance aux protégés de Jean-Luc Mahury. Alors vous, messieurs, comment ça se présente cette année 2008?
Pierre, ben, l'année Lionel 2008, ou Philippe? Pierrot, engage.
Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, cette saison s'engage sur deux plans, puisque nous sommes maintenant une petite organisation à deux têtes. D'un côté, nous avons les courses en monoplace, et de l'autre côté, le championnat de France d'endurance avec les deux Clio sur une desquelles roule Philippe, qui est ici à nos côtés. Et donc la saison a déjà commencé, puisque nous étions il y a 15 jours en Espagne à Jarama.
Donc c'est parti déjà.
Ah oui, c'est parti, bien sûr. Ouais. Alors donc tout l'hiver a été, bon, en ce qui concerne justement les Clio, tout l'hiver a été consacré à la préparation des voitures. Donc il y a eu un gros travail de fait, et la première course à Jarama, donc il y a 15 jours, qui a été un peu, on dirait, mi figue mi raisin, puisque une des deux voitures a cassé l'embrayage après 50 minutes de course. Bon, ça, malheureusement, c'est les aléas de la compétition. Quant à l'autre voiture, avec donc celle de Philippe Boer qui est ici, malgré un problème de cardan qui a été assez vite résolu grâce à l'enthousiasme général, la voiture a très bien terminé une course de 4 heures, et 4 heures, c'est quelque chose, hein, déjà.
Comment s'est fait, cette fusion entre les deux, pas cette fusion, mais ce partenariat? Vous êtes rencontrés comme ça, par hasard, sur le circuit? Vous étiez venu, je crois, l'année dernière, au mois de décembre. Ça s'est fait comment, ce partenariat?
Bah, c'est-à-dire que nous étions déjà amis depuis de très nombreuses années, et ça s'est fait que l'opportunité est venue pour Philippe et ses amis de démarrer en endurance, et puis voilà quoi. Et alors, presque naturellement, je dirais que nos talents sont assemblés, et puis voilà, et la mayonnaise a bien pris.
Alors, la réaction de Philippe ?
Bah, disons que moi je dirais d'abord... Pourquoi on s'est tous réunis ? Effectivement, on est amis depuis un certain nombre d'années. On a une passion commune. Moi, au départ, j'aidais Pierrot quand il roulait en monoplace et quand il roule encore, d'ailleurs. Et puis, bon, bah, ça m'a donné des envies. Ça m'a toujours donné des envies, d'ailleurs, la conduite automobile. Bon, il y a eu l'opportunité, quand on a acheté ces deux Clio, et puis voilà, tout s'est...
Donc, Philippe, vous, ça fait combien d'années de pratique, alors, du coup ?
Oh, bah, moi, pratique réelle, bon, il n'y a pas très longtemps. Moi, il y a 3 ans.
Moi, c'est ça, j'allais dire 2 ans, 3 ans, quoi.
Mais bon, dans mon jeune temps, si je peux dire ça, à l'âge de 18-19 ans, bon, c'était ma passion. J'ai fait des écoles de conduite, j'ai fait des tas de choses, mais bon, après, c'est un problème de moyens, quoi.
Oui, c'est toujours un éternel problème, quoi. Mais voilà, ça, on va en parler.
C'est de pire en pire.
Oui, Pierre, ça fait combien d'années ? C'est aussi peut-être une façon de garder la foi, de continuer à garder la foi malgré les années de pratique.
Oui, c'est vrai que ça a donné un aspect de nouveauté et de par rapport à ce que nous faisions avec Lionel depuis de très nombreuses années, puisque je crois que là c'est quasiment notre 23e ou 24e saison.
Et voyez, nous on a fêté les 20 ans de Tribune Sport il y a pas longtemps. Vous êtes encore plus loin que nous.
Oui, mais voilà, et donc c'est vrai que l'activité de Philippe et de ses petits camarades nous a changé d'air finalement, et c'est ça a été très bénéfique, et je pense que tout le monde en est satisfait. Enfin, sans
absolument. Alors, vos ambitions pour cette année ? Alors, Pierre et puis Philippe.
Bon, alors, mes ambitions, nous, depuis 2 ou 3 ans, nous avons donné un tournant un petit peu à nos activités. C'est-à-dire que nous sommes plus centrés sur les courses historiques ou classiques, disons, que vraiment sur la compétition moderne qui devient de plus en plus difficile. Et puis, je rappelle à tout le monde que nous roulons en monoplace sur des Formule Ford. Le championnat de Formule Ford moderne en France n'existe plus. Il est possible uniquement de rouler au Benelux, c'est-à-dire principalement en Hollande. J'ai donc couru pendant 2 ans le championnat du Benelux, mais ce sont des déplacements assez longs, c'est coûteux, etc. Et là, nous nous recentrons un petit peu sur les courses historiques avec une Formule Ford plus ancienne que nous allons essayer la semaine prochaine, d'ailleurs, sur le circuit Bugatti au Mans. Et puis voilà, donc je compte cette année faire quelques courses en monoplace comme ça, mais des événements importants ou originaux. Et alors, bon, bah, à titre d'exemple, par exemple, la saison dernière, nous avions couru à la reconstitution, si on peut dire comme ça, de la première course en circuit qui a eu lieu au Portugal dans les années 60 sur un aérodrome. Et il y a eu c'était le quarantenaire, donc cette année, enfin l'année dernière, pardon. Et donc, la course avait été réorganisée à l'identique. Donc, c'était assez amusant de faire ça dans des conditions de sécurité des années 60, justement, et ça remet un petit peu les choses en place, c'est intéressant.
Alors, quels sont les circuits les plus prestigieux ? Vous nous avez parlé du Mans, donc Bugatti au Mans, il y en a d'autres.
Ah ben les circuits, oui, tous les grands circuits, notamment les circuits anglais, quoi.
Qui, Silverstone, non ?
Silverstone,
ouais.
Brands Hatch, notamment.
Ouais, superbe,
Brands Hatch, qui est quand même un des circuits les plus extraordinaires au monde, incontestablement. Le circuit de Francorchamps, où j'ai eu la chance de rouler avec Philippe sur la Clio la saison dernière. Là, c'était vraiment quelque chose de grand. Et puis, il y en a beaucoup d'autres.
Oui, non, mais voilà. Parce que on le dit chaque année, mais ça fait rêver pour l'auditeur qui est derrière, donc son poste, qui nous écoute. Il doit se dire, mais c'est prestigieux, quoi. Il roule sur les circuits les plus mythiques. On y pense à ça quand on monte dans son habitacle, dans sa voiture.
Ben, je crois qu'on y pense au début, quand on commence, et puis avec l'habitude, c'est une habitude qui s'installe, et puis finalement, on s'approprie même ces grands circuits à force les pratiquer, voilà.
Est-ce qu'on pense qu'on est quand même un privilégié ? On dit, j'ai une chance, je réalise un rêve de gosse. risque quand même.
Oui,
part.
Et puis bon, même sans aller jusque, enfin c'est vrai, mais bon, la chance et le privilège, c'est effectivement de pouvoir rouler sur ces pistes et puis de pratiquer ce sport qui est quand même extraordinaire.
Philippe, oui. vos ambitions puis vos circuits.
Bon bah les circuits, c'est, enfin bon, nous on va pas en Angleterre, on va en Espagne, on va au Portugal,
c'est
on va en Allemagne de l'Est,
Estoril.
On va en Belgique, à Spa-Francorchamps, ouais, comme a dit Pierre.
Quand même. Tout, bon.
Nos ambitions, dans notre championnat, le problème, si on peut dire ça, c'est que dans notre catégorie de véhicules, on n'est pas suffisamment nombreux. Malgré tout, bon, le but, c'est de prendre beaucoup de plaisir, et ça, en l'occurrence, on en prend beaucoup. On s'amuse bien, et puis voilà, quoi. Mais je veux dire, ambition sportive, il n'y a pas suffisamment, à mon avis, sur le plateau. On est quoi, dans le meilleur des cas, on est 35, voire 40 partants. Il y a 80% de voitures qui sont largement beaucoup plus puissantes que nous. On n'est pas du tout dans la même catégorie. C'est ça qui est un peu dommage, quoi. On est toujours en train de se battre entre 3 ou 4, toujours les mêmes.
Alors justement, on parlait des difficultés de ce sport. Avant tout, il faut avoir de l'argent, plus que jamais.
Ouais,
c'est la grosse
plus,
difficulté.
D'ailleurs.
Il y a beaucoup de jeunes qui renoncent justement à la pratique de ce sport à cause de moyens financiers.
Bah voilà, moi c'est ce qui s'était passé au tout
début. Du manque de moyens financiers.
J'étais vraiment, j'étais accro de ça quand j'étais jeune et j'ai jamais pu, faute d'argent, quoi. Bon là, il y a eu l'opportunité. Jean-Luc, qui n'est pas là aujourd'hui, qui n'a pas pu venir, mais c'est un peu lui qui m'a mis, moi, le pied à l'étrier. Il y a eu une opportunité, il m'a embarqué là-dedans et puis bon, je veux pas dire qu'il m'a forcé, hein. Je me suis vraiment laissé faire, au contraire. Ouais. Mais je veux dire, bon, c'est Jean-Luc, Pierrot aussi qui m'a remis le pied à l'étrier. Et puis voilà, quoi. Puis après, bon, c'est le fait aussi de passer des super moments ensemble, quoi. Voilà,
ça représente quel budget? Une saison, allez, grosso modo. Hein,
Bah écoutez, pour les deux Clio, là, actuellement, pour cette saison là qui s'annonce, là, enfin qui a déjà commencé d'ailleurs, il nous faut, on ne l'a pas encore, il nous faut un budget pour faire 5 courses, donc c'est pas énorme. Mm-hmm. On a fait un prévisionnel, il faut 50 000 euros.
50 000 euros, ouais. C'est-à-dire que ça englobe tout, ça englobe
les engagements,
ouais, les déplacements.
Les déplacements, bon, ça englobe un petit peu de casse, pas trop.
Ouais.
Bon, la saison dernière.
Vous avez du matériel de rechange, vous avez des stocks avec des partenaires, avec des... Non ?
Bah, des partenaires, oui, on a des partenaires, heureusement, parce que sinon, ça serait impossible. Mais bon, du matériel, on commence à en avoir, on se structure année après année, quoi. C'est quand même énorme, hein, comme investissement, et puis voilà, quoi.
Et puis bon, vous avez la chance, vous êtes, je crois, du métier, donc vous réparez les voitures, c'est vous qui faites l'entretien de
votre véhicule. Je répare les voitures quand c'est de la carrosserie, quoi.
Ouais,
après, bon, Lionel, heureusement que Lionel est là, hein, c'est clair, hein, ça, si on n'aurait pas Lionel, on serait dans la panade, hein.
Et alors, vous partez par vos propres moyens, vous avez une...
Il y a des remorques.
Il y a des remorques qui emmènent les voitures, tout ça.
Enfin, bon, c'est... Pour Madrid, par exemple, quand on a été là il y a 15 jours, Pierre et Lionel sont partis le mardi pour arriver le jeudi. Bah oui, par la route, ça fait quand même
deux jours.
Ça fait du chemin, hein. Et puis nous, on les a rejoints après. Et après, ils sont remontés, pareil, deux jours. Enfin, c'est des expéditions.
Avec des frais d'hôtel où on dort comme
non,
ça
on dort sur place, hein, pour limiter les frais. Hein, parce que...
Et vous avez d'autres personnes qui vous amènent avec vous, des supporters, vos conjoints, vos amis, vos proches
On a un élément essentiel dans le team.
Hein,
c'est une personne qui n'est pas là non plus.
Ouais.
C'est la femme de Pierre.
Oui.
Qui s'occupe de toute l'intendance et tout ça, et Dieu sait si c'est un sacré boulot.
C'est pour ça qu'il faut en parler, parce qu'il faut rendre hommage à ces personnes de l'ombre.
J'en aurais parlé, parce que là, franchement, on a vraiment que les voitures à s'occuper. Colette est là, elle s'occupe de tout, c'est que du bonheur. À ce niveau-là, vraiment, elle participe vraiment.
Oui, parce que je suppose que quand on investit autant d'argent, quand on investit autant de temps, il faut naturellement des proches qui soient
favorables. Il faut bien partir du principe que tout ça, c'est basé sur le bénévolat. Je veux dire, c'est la passion, quoi. Il y a pas à tortiller.
Et allez, ça rapporte combien? Est-ce que ça rapporte un peu d'argent? Si on gagne une...
Non, alors là, je vous arrête tout de suite, ça rapporte rien du tout. Au contraire, ça coûte. Hein. C'est tout. Ça rapporte que du bonheur. Mais c'est très important.
Un bonheur onéreux, quoi.
Ah oui, ça c'est sûr.
Pierre, c'est les mêmes. Vous, ça fait quand même 23 ans, comment vous avez fait?
Alors, ce qui est un peu à la différence de Philippe, dans les années 80-90...
Ouais, c'était encore un peu plus facile, ouais.
Voilà, c'était un peu plus facile, et puis je ne vais pas dire qu'on arrivait à gagner sa vie, mais quand la Formule Ford était sous la tutelle de Ford France, il y avait des primes qui, pour des gens comme nous, sommes assez économes, et voilà, étaient intéressantes, et certaines fois, très franchement, la course ne coûtait pas grand-chose. Enfin, une course, pour diverses raisons, quand j'arrivais à bien me classer, faire deux courses dans le week-end, c'était pas rentable, mais nous arrivions à rentrer dans nos frais. Et puis plus les années ont passé, plus tout ceci a disparu. Et bon, malheureusement, là, quand je cours, c'est la même chose que Philippe. Bon, à savoir que les courses qui sont faites avec les Clio c'est de l'endurance, donc il y a beaucoup plus de risques de casse que dans une course d'une demi-heure en monoplace.
Et alors, comment on fait? Donc on entretient son véhicule, on revend son véhicule. En fin d'année, on en achète un autre, ça peut arriver.
Ah oui,
on a sa propre filière, y compris. Donc, on parlait pour les pièces de rechange, les stocks, parce que c'est ce qui doit coûter le plus dans une saison.
Bah, je crois, comme je l'ai déjà dit à ce micro, tout ça est une grande famille.
Oui, oui.
Et alors, que ce soit dans les courses d'endurance où bon, le relationnel est très important, en monoplace, c'est la même chose. Les voitures s'achètent, se vendent. Bon, j'en ai vendu une au printemps, par exemple, et puis voilà quoi, c'est comme ça que ça marche. Et puis même pour les pièces détachées, il y a toujours des petits systèmes pour avoir des pièces moins chères. Enfin, il faut se débrouiller. Hein,
bien sûr. Voilà. Et les sponsors sont plus frileux. Pourquoi? Parce que les temps sont plus durs ou parce qu'ils sont de plus en plus sollicités?
Bah, je crois que c'est un peu les deux, justement. Ouais. Hein, ils sont sollicités et puis la conjoncture économique est moins bonne.
Il n'y a peut-être pas autant de retombées aussi pour eux.
Oui, et puis le sport automobile, quoi qu'on fasse, n'est plus tout à fait aussi populaire qu'il y a une vingtaine d'années. Il y a une vingtaine d'années, c'était quelque chose d'un peu magique. Mmh. Maintenant, on a tellement...
On pense qu'aujourd'hui, c'est l'engin qui prime sur le sportif, sur le coureur.
Oh,
c'est peut-être ça, non?
Non, mais...
Pourquoi il a perdu alors?
Il a perdu parce que c'est moins à la mode. C'est, ça pollue, c'est l'écologie.
Ah,
bon,
ouais.
L'écologie joue un rôle déterminant, mais c'est fait partie aussi de la recherche. Si on arrive à trouver des carburants qui vont mieux, si on arrive à trouver plein de choses, peut-être que les choses changeront.
Et vous ne pensez pas qu'il y a cette image aujourd'hui où la technologie a énormément avancé, a peut-être pris un peu plus le pas sur la créativité, sur l'individu? Non?
Pas sûr.
Non, c'est pas sûr. Heureusement, d'ailleurs.
Eh oui, pas sûr.
Ouais.
Pas sûr. Mais les gens se passionnent beaucoup maintenant pour les voitures écologiques et ils se passionnent pour avoir eux ces voitures-là chez eux avec.
Il y a
un autre engouement de l'automobile, une autre façon de voir les choses. Nous, on était un peu des sorciers à l'époque. On allait voir des voitures extraordinaires. En fait, on allait les voir sur des circuits. Aujourd'hui, les voitures extraordinaires, elles sont presque sur la route. Avec le tuning, avec les jantes, avec les trucs. Or aujourd'hui, voir une voiture qui a encore autre chose, ça implique aussi de faire des kilomètres sur un circuit, ça implique l'entrée, le prix, le coût. Quand on part avec une famille maintenant, quand même, pour entrer sur un circuit, c'est un budget aussi. Si on vient avec même deux enfants, la femme, on va au resto, ça fait une journée, quand même. Par contre, il y a des régions qui seraient peut-être un peu où on verrait peut-être un peu plus de public. Je pense aux Vigan, là, comme ça.
Oui.
Il y a souvent du monde. Les journées open, comme Renault a fait à Magny-Cours, là, il y avait beaucoup de monde. C'est blindé de monde parce que...
C'est gratuit.
C'est gratuit. Donc, les gens viennent. Mais autrement, puis je pense aussi il y a les médias les médias font la Formule 1.
Pierre, oui.
Oui, ce que je voudrais ajouter aussi, depuis quelques années, ce qui nous fait une concurrence terrible au niveau vraiment du sport automobile, ce sont les jeux vidéo, parce que les gens pour 50
s'identifient
euros s'identifient complètement. Quand on les met dans une vraie voiture, c'est des fois fort différent.
C'est la différence entre le virtuel et puis le réel.
Voilà.
C'est
mais
pareil. Hein.
On a des capacités virtuelles qui sont c'est phénoménal, ce qu'on peut vivre. Et ça nous c'est comme ça. Hein, c'est l'époque.
Alors Autre phénomène indirect, est-ce que ça joue pas contre vous? Aujourd'hui, il n'y a plus le fantasme de la vitesse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on limite la vitesse. Oui. Aller vite sur un circuit aujourd'hui, est-ce que c'est d'actualité?
Oui, moi
je fais la chasse à la vitesse, justement.
Justement, mais il y a deux paramètres là, parce que le gars qui est épris de vitesse, il se fait gauler quand même au radar. Il est le premier à dire, c'est pas moi qui vais vite, mais c'est lui qui a plus de permis. Alors, il y a quelque chose qui est un peu bizarre. Et je pense que moi, justement, quand on va, par exemple, on s'aperçoit des journées à Croix-en-Ternois où on peut rouler avec sa voiture pratiquement de tous les jours, ces journées-là sont blindées de voitures. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui s'inscrivent le matin pour tourner une demi-heure, trois quarts d'heure sur un circuit. Donc, ça veut dire que quand même, la passion de la vitesse, je ne crois pas qu'elle soit complètement... On a pris conscience du danger. Mais les gens vont moins vite parce qu'il y a le danger. On leur a expliqué qu'une voiture, c'était dangereux. Mais quelqu'un qui aime la vitesse et qui conduit bien sur un circuit, il est quand même beaucoup plus en sécurité que de prendre la route des Vaux-de-Cernay à 150 et essayer de prendre tous les virages. Alors, je pense que les gens ont compris ça quelque part. Il y a une évolution de conduite. Le gars qui aime la vitesse, eh ben, s'il a une Porsche, par exemple, on va le voir à Croix-en-Ternois faire son petit tour de Porsche. Il va se défouler pendant un petit moment et puis il va rentrer sur la route comme tout le monde, comme monsieur tout le monde. C'est pas parce qu'il aura une Porsche, mais il roulera comme monsieur tout le monde à 90. Et je pense que c'est comme le motard qui va.
C'est la même chose. La carole, quoi, qu'il se défoule là-bas.
C'est beaucoup moins dangereux que de prendre le périph. Il passe à gauche, il passe à droite. Vous savez plus où l'autre dans la voiture, il chasse où il est. Il est déjà dans le coffre, mais bon. Et là, je pense que là, il y a une prise de conscience.
Alors justement, entre vous, ça se passe comment en course? Est-ce que tous les coups sont permis? Est-ce que des fois, on est à la limite?
Dans les courses de sprint que je pratique, oui, quasiment. Enfin, un conducteur normal serait fort surpris de voir ce qui se passe au sein des pelotons, quoi. C'est oui, quasiment tout est permis. Quasiment.
Ouais. Quitte à pousser l'autre à la faute.
Il faut, c'est même le but du jeu. Par exemple, dans un départ, c'est de se faire sa place.
Alors, on n'est pas à la télé, mais Lionel pointe Philippe Dudouis. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'il y a un petit événement à Madrid.
Allez.
Le petit événement, c'est que les Ferrari vont un peu plus vite que les Clio, quoi. Et alors, en pleine ligne droite, ils sont passés à 3 dans la ligne droite, mais il y en avait un. La Ferrari était dans l'air, mais la portière de Philippe a volé. Mais ça se passe à 200 quand même, le truc. On n'est pas loin du 180-200, je pense que vous étiez à 200.
Probablement.
Il y a la descente, t'avais la 6
J'avais pas encore
mis la 5. Donc t'étais pas loin quand même.
Alors justement, on se prépare comment avant une course? Est-ce qu'on fait le vide? Est-ce qu'on fait le creux? Parce que bon, on parlait de la course à pied tout à l'heure, il y a une préparation physique quand même, un minimum, parce qu'on doit terminer complètement lessivé. Vous avez le temps de faire un peu de préparation physique? Un peu de vélo, un peu de course à pied, on en parlait tout à l'heure, que vous courriez aussi.
Le temps, on devrait le trouver. Mais on a toujours de bonnes raisons pour dire bah non, j'ai pas eu le temps de me préparer, donc voilà quoi. Mais faut pas. Une préparation physique, quand on rentre dans la voiture, effectivement, quelques minutes avant le départ, on est un peu anxieux, quoi. Mais sinon,
Alors justement, il y a une façon de pouvoir donc se préparer psychologiquement. On s'enferme, on se.
Non, on n'en est pas là quand même. On n'est pas. Mais enfin bon, on fait avec. On fait avec. Puis une fois qu'on est parti, après on n'y pense plus. On est dans la course, Et puis voilà.
Vous êtes comment avant une course? Vvous êtes plutôt tendu. Vous voulez pas qu'on vous parle. Vous êtes. Vous envoyez balader tout le monde?
Non. On n'envoie pas balader tout le monde. Mais enfin bon, effectivement, on est un peu muet, quoi.
Laisser tranquille, quoi.
C'est mieux.
D'accord. Et Pierre?
Oui, c'est la même chose.
On imagine Pierre très calme.
Oui, tout à fait.
Complètement.
Complètement, mais ça se voit pas. C'est l'extérieur qui est calme, l'intérieur il boue.
Bon, les choses ont un petit peu évolué maintenant. Bon, dans les courses actuelles où il y a quand même moins d'enjeux, mais bon, je me souviens, il y a quelques années, quand nous étions dans des championnats où c'était serré, notamment le moment du départ, personne ne faisait trop le malin et il y avait de l'enjeu, notamment parce qu'il y avait des enjeux financiers au bout. Et donc on a vu certains départs qui étaient quand même franchement houleux.
Alors Pierre et le mécano, il est aussi confident. Est-ce que vous avez des visions différentes de la course? Quand on est dans la voiture, on la voit différemment que quand on est sur le circuit mécano.
Dans la voiture, certainement que ça doit être autre chose. Je me rends pas compte parce que ils sont tout seuls.
Alors Pierre, vous êtes uniquement le mécano ou vous êtes aussi le confident et le conseiller
Plein de choses, ouais. plein de choses. J'ai la chance de pouvoir les écouter et puis d'essayer de comprendre pourquoi ça va pas ou pourquoi ça va bien. Mais je préfère quand ça va bien que quand ça va mal. Mais en fait, une voiture de course ne va jamais bien, ça il faut le savoir. Une voiture de course peut toujours aller plus vite, mais bon... À nous de trouver l'équilibre entre l'avant et l'arrière, ce qui n'est pas simple. Surtout sur les Clio, apparemment, bon, c'est des voitures avec lesquelles, ces voitures sont un peu spéciales, avec lesquelles j'ai pas trop d'expérience encore suffisamment, je les connais pas suffisamment. Là, on va commencer à travailler dessus et essayer de les comprendre un peu. On va peut-être augmenter un peu de carrossage, on va peut-être plein de choses. Mais c'est eux qui ressentent l'auto. En fait, j'ai aucun pouvoir. Quand ils me disent ben ça s'ouvre, j'ai pas de grands moyens. Une monoplace, on a beaucoup plus de chances de l'amener à avoir quelque chose de très pas juste, mais plus juste. Et là, dans les Clio, on a, si vous voulez, on a des paramètres qui sont des paramètres définis. Et on n'a aucun moyen en course
d'y toucher.
Et alors qu'une monoplace, on fait 3 tours de circuit pendant les essais et on va comprendre à peu près, pas toujours, mais dans la majeure partie des cas, on va essayer de comprendre pourquoi elle s'ouvre ou elle ressouvre. C'est-à-dire que quand on s'ouvre, la voiture tire tout droit à l'accélération au moment où on remet les gaz en sortie de virage. Quand on survire, c'est l'arrière qui va dans le bac à sable. Donc, faut faire un compromis de ça pour avoir une voiture qui est neutre et qui vient glisser parfaitement dans le virage. Et avec les Clio, le problème qu'on a, c'est que c'est une voiture relativement à empattement court et qu'on justement tendance à tenir tellement qu'à un moment donné, lorsqu'elles partent, elles ne sont plus récupérables. Je veux dire, elles décrochent et c'est au revoir. Et le pilote n'a aucun moyen de s'en tirer. Et enfin, il est dans le bac ou le long du rail, il n'a pas de choix. Donc, à trouver le compromis sur la Clio, c'est très difficile parce que chez Renault, on n'a pas de moyen de réglage comme sur une monoplace. Les points sont fixés et Renault nous vend, par exemple, pour le carrossage, des axes de diamètre différents pour obtenir un carrossage. Il y a un ABAC qui nous dit, ben, un axe de 1,5, ça fait 3 degrés ou 2 degrés. Donc ça, en course, on peut pas le modifier, je veux dire. Si ça va pas, c'est bon, quoi. On s'est planté jusqu'au bout.
Donc d'où cette complicité entre le mécano et puis le pilote. Hein. On parle de ça parce que c'est plus qu'un. Bon, il y a effectivement le mécano, mais c'est plus qu'un mécano, quoi. Cette complicité, elle est indispensable si on veut avoir des résultats dans le transport.
D'autant plus que nous, cette année, on a amélioré un peu le fait d'être plus complice avec le mécano, on est relié par radio. Et ça, c'est
génial.
C'est super.
C'est génial parce qu'on peut se préparer bien, dans le stand si la voiture ne va pas bien. Le coup du cardan, par exemple, on savait qu'on changeait un cardan. Lequel, on ne savait pas, ni gauche ni droite, mais on savait qu'il y avait un problème cardan. Et bon, on peut préparer le cri, on peut préparer la croix, préparer le machin. Bon, et là, on peut changer le cardan. Quoi.
Jamais d'engueulade entre vous?
Non. On évite.
Ça sert à rien, de toute façon.
De toute façon, s'il y en a une, il faut la comprendre et puis c'est tout. Il y a le coup de feu.
Dans l'action, voilà.
Bien sûr, justement, mais c'est sur le coup de. Ça n'a pas de rigueur, je veux dire. C'est pas quelque chose de
qui va rester avec
de la rancœur
On le sait, on fait passer quoi.
Voilà, et puis on verra demain. Point. Je veux dire. Bon, c'est une ambiance spéciale, c'est une ambiance de passionnés, donc même si on se dit des choses, on se dit plus souvent on se marre plutôt qu'autre chose, plutôt que de chercher le détail qui va fâcher tout le monde, ça sert à rien celui-là.
Et puis on sait que Lionel a une spécialité, c'est les dépannages miracles.
Voilà.
Hein, Philippe-Pierre
Oui.
Hein. Non, mais arrêtez.
Merci. Hein, Pierre, c'est vrai que ça nous a un peu toujours surpris, ça.
Oui, c'est sa toujours réputation. Il l'a donc encore prouvé à Madrid.
Qu'il est modeste.
À Madrid, avec un changement de cardan qui est éclair en 10 minutes. La voiture est repartie après jusqu'à la fin de la course sans aucun problème, sans souci. Donc, c'est vrai que ça, l'aide de Lionel nous est vraiment très précieuse, tant pour moi avec ma monoplace que pour les Clio. Quoi.
Alors, l'idéal, ce serait de partir en reconnaissance, hein, en repérage un peu avant. On connaît au fil des années chaque circuit, mètre par mètre, j'allais dire virage par virage.
Oui,
on pourrait presque conduire les yeux fermés.
Peut-être pas. N'allons pas jusque-là, mais c'est vrai que
l'image.
Oui, la majorité des circuits. Bon, maintenant, en ce qui me concerne, globalement, ça va bien. Et puis, pour les camarades des Clio, les courses se déroulent toujours à peu près sur les mêmes pistes et finalement, ils les connaissent bien maintenant. Voilà.
Mm-hmm. Avec, on va le rappeler, des normes de sécurité considérablement améliorées. Vraiment des circuits maintenant dont on a amélioré la sécurité.
Oui, et d'ailleurs, à ce sujet-là, puisque, en début d'émission, il y a eu un hommage à un grand commentateur sportif. Oui. On peut également rendre hommage en parlant de la sécurité à Jean-Marie Ballest qui a eu certains défauts également et autre chose.
Il a été controversé, absolument.
Mais c'est quand même lui qui a pris les choses en main et qui a procédé vraiment à la modernisation des circuits français et mondiaux. Et à ce niveau-là, on ne peut qu'en dire du bien.
Oui.
Parce que il faut quand même savoir que le sport automobile a quand même construit sa légende sur le drame.
Oui, malheureusement.
Et tout ça a évolué à partir donc des années 70, quand vraiment ça n'allait plus, on ne pouvait pas continuer comme ça. Et plusieurs personnes, comme Jean-Marie Balestre et celui aussi qui a été l'initiateur de beaucoup de choses, c'est Jackie Stewart. Qui a pris conscience qu'on ne pouvait pas mourir comme ça tous les week-ends dans une voiture de course. Mmh. Et puis, peu à peu, les choses se sont améliorées jusqu'à maintenant donner finalement des circuits des fois où on est passé un petit peu de l'autre côté. Où la sécurité est finalement un peu trop présente. Même si le risque n'est jamais absent.
Oui, bien sûr.
Et je voudrais également citer une anecdote qui est arrivée à Madrid le week-end, il y a 15 jours, où deux voitures se sont télescopées dans la ligne droite et où une roue s'est élevée dans les airs et a atterri dans les stands. Elle est tombée par miracle sur le pied d'un monsieur qui était là. Mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et il y a toujours une part de danger quoi qu'il arrive dans ce sport.
Et c'est vrai, quand on voit aujourd'hui les accidents qu'il y a sur les circuits, très peu maintenant sont fatales et mortels. Tout le monde s'en tire dans l'ensemble assez bien. Je crois que le dernier gros accident, malheureusement, c'est Ayrton Senna.
Voilà, absolument. Bon, il y a eu d'autres accidents, mais le
mortel.
C'est-à-dire qu'auparavant, la conduite a aussi évolué. C'est que maintenant, on accepte de sortir de la piste. Enfin, ça fait partie du sport. Bon, dans les années 60, celui qui sortait de la piste, il y avait une chance sur deux pour que se termine vraiment très mal.
Et puis, on se rappelle de ces images où on voyait aussi des pilotes brûlés dans leur véhicule. Je ne sais plus quel était le Grand Prix, mais Oda aussi.
C'était au Grand Prix de Hollande. Il y a eu un très gros accident comme ça avec le feu. Et tout a progressé, notamment ce qu'il faut se rappeler également, pour parler par exemple des premières matras de Formule 1, les réservoirs, c'était le système aéronautique avec des réservoirs cloisonnés en tôle et l'essence, ces réservoirs fuyaient toujours. Tout le temps. Et donc maintenant, les réservoirs sont constitués d'outres en caoutchouc qui peuvent être écrasés, qui ne risquent rien. Et donc le feu, on le voit d'ailleurs dans les courses, même en Formule 1, le feu a disparu des circuits, pratiquement.
La matra, là, c'est impressionnant parce que le pilote est assis sur de l'essence. Il est entouré d'essence de chaque côté et en dessous son siège.
C'est le réservoir,
le siège en fait. Donc, et ça emmenait, je ne sais plus combien de litres
200. Oui, 200 litres d'essence, des trucs.
Ah, c'est fou.
Donc le gars ne peut pas sortir de la voiture. Une fois que c'est embrasé, il est à l'intérieur, il ne bouge plus.
Cette saison de Formule 1, elle vous plaît justement? C'est vrai qu'on a vécu une saison assez folle l'année dernière. Il semble qu'on est reparti pour une saison du même type. Non?
Ça va être plus dur.
Pourquoi ? Parce
qu'ils se battent un peu plus avec le volant maintenant. J'ai remarqué ça.
Ça va être une saison plus passionnante pour nous.
Ça va peut-être changer les choses.
L'année dernière, c'était fabuleux.
Ferrari a quand même. Fabuleux. Enfin, McLaren a loupé le championnat quand même.
Avec un troisième larron qu'on n'attendait pas qu'il vienne gagner au dernier moment.
Mais ça, il y a de la magie Todd là derrière aussi. Il y a un monsieur qui est là et qui y pense. Donc, mais ce qui est dommage, c'est que la McLaren a raté le championnat. Elle le méritait. Logiquement, elle le méritait.
La guéguerre entre.
Et Alonso a cherché.
Mais c'est pas nouveau ça, c'est arrivé dans le passé aussi.
C'est arrivé dans le passé, mais souvent il y a un pilote numéro 1, c'est pilote numéro 2. Et là, ça s'est pas passé comme ça. Donc, forcément, on fait des erreurs à ce petit jeu. Et ça coûte aussi. Alors, Hamilton, là, on l'attend un petit peu pour voir. Mais ça va peut-être être plus difficile parce que je pense qu'Alonso est quand même quelqu'un qui sait un petit peu mettre au point et faire avancer une auto sur le plan technique.
Ouais.
Hamilton est encore un peu jeune et je pense qu'il a peut-être des choses à apprendre.
Ouais, plus fougueux Hamilton.
Ouais,
Alonso
ouais.
Plus technique. Par contre, la voiture, elle n'est pas encore au point. Hein, la Renault, là. Hein.
Ça va venir.
Ouais,
je pense que la Renault, ils sont sur une bonne voie. D'ailleurs, là, ils n'ont pas fait un mauvais résultat l'autre jour. Alonso, il a fait ce qu'il a pu, mais il était présent. Alors, tout le monde parle de Bourdais, mais...
Oui, justement, j'allais poser la question. Sébastien Bourdais, pour ses débuts, vous en pensez quoi?
Bah, c'est la première course, elle est magique. La première course, elle est magique. La deuxième, moins brillante, mais bon. On ne sait pas ce qui s'est trop passé. D'ailleurs, la voiture est partie dans le bac. Mais je pense qu'il a du talent. Pour en arriver là, de toute façon, il a du talent. Ouais. De toute manière, enfin, le dernier de la Formule 1 a du talent. C'est obligé. Ouais,
ouais. Mais enfin, ça va prouver qu'il y a encore quand même un écart entre le Shankar et puis la Formule 1, quoi.
Ouais, mais le Shankar, les voitures sont différentes, mais les circuits sont différents. C'est autre chose en pilotage. Je pense que là, il a une année où il va falloir. Bon, je pense qu'il a déjà un peu d'expérience sur la Formule 1, mais il a une année où il va falloir qu'il apprenne aussi des choses.
Ouais, mais il a peut-être pas la voiture pour aller chercher.
Alors après, ouais, parlons techniquement de la voiture. Mais là, bien sûr, faut voir un peu l'auto qu'il a. Mmh. Et la place qu'il a fait l'autre fois, c'est presque bon. C'est la première fois qu'elle est aussi bien placée,
ouais,
cette voiture.
Ouais, absolument.
Je l'ai jamais vu à cette place-là. Bon, maintenant sur le plan pilotage, je pense que au moins on voit avant quand la caméra est embarquée dans la voiture, le gars est rentré dans le virage, il prenait son virage, hop, la bagnole repartait. Alors que là, on voit, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Ça bouge, ça bouge beaucoup plus.
Pierre, la nouvelle saison de Formule 1, on peut la souhaiter, vous l'espérez, et vous pensez qu'elle sera aussi passionnante que la saison passée?
Oh bah, tout le monde ne peut que.
Parce que pendant des années, on n'a pas été gâtés quand même. Hein. Bon, on n'avait rien contre Schumacher, mais c'était pas très passionnant les Grands Prix de Formule 1 à la télé. Hein.
Oui, effectivement, mais c'est vrai que ça, depuis sa retraite, ça a redonné quand même un peu de piquant aux courses. Et puis, moi, je dirais que le meilleur gagne, et puis avec de belles bagarres. Hein, c'est le but de la voiture.
Philippe, pareil?
Ouais, pareil. Enfin, moi, la seule différence, c'est que bon, par rapport à la saison dernière, pour moi, ça s'est réglé sur le tapis vert, plus que sur la piste. Faut espérer que cette année, ça se règle vraiment intégralement sur la piste. Et puis voilà. Et puis bon, effectivement, que le meilleur gagne. Hein.
Alors un petit mot quand même sur Montlhéry. C'est un circuit qui malheureusement a fermé. Vous en pensez quoi? C'est un lieu mythique quand même du sport automobile. On avait eu il y a quelques temps un défenseur du circuit de Montlhéry qui était intervenu à l'antenne. C'est dommage. Qu'est-ce qu'on va faire ce circuit? Il va complètement disparaître. On va le...
Moi, personnellement, je pense que c'est un circuit qui est condamné, ou on l'a condamné.
Il n'y a plus la sécurité, il n'y a plus...
Il n'y a pas la sécurité, c'est sûr. Oui, mais oui. On l'a laissé un peu se dégrader au fil du temps. Mmh. Et puis, rénover, c'était peut-être trop... Les travaux étaient peut-être trop onéreux, et puis il n'y avait peut-être pas les budgets pour ça. Mais depuis le temps qu'on parle d'un Grand Prix à Versailles, après on entend parler... on entend parler d'un Grand Prix à Versailles, après aux Champs-Élysées...
C'est
après...
revenu, la piste de Versailles.
La piste de Versailles est revenue.
Mais
on n'est pas à Monaco non plus. Alors avant, il faut quand même un investissement lourd. Quand on voit Monaco, ils ont tout pour faire un circuit à l'intérieur d'une ville. On peut pas dire que c'est un vrai circuit en fait, parce que c'est un circuit en ville. Et alors qu'on demande la sécurité partout, là, on court à Monaco à travers des rails. Bon, c'est comme à Pau. À Pau, bon, c'est pas un Grand Prix de Formule 1, mais les Porsche roulent entre des rails. C'est impressionnant quand même, hein. Je pense que l'investissement, il est lourd. Alors bon, est-ce qu'il faut faire un circuit dans le coin? Un autre circuit dans le coin, un vrai. Alors toute la question reste posée. Ouais. Le Castellet, c'est presque que des essais privés. Il y a plus de vraies courses. Il y a que ça, quoi. Enfin, les F1, ils viennent, mais ils louent le circuit la semaine et ils roulent là-dessus. Donc c'est plus un vrai circuit comme on avait. Le Ricard, alors maintenant on a Magny-Cours, on n'arrête pas de le remettre en cause. Chaque année on dit on arrête, puis
c'est
on repart.
C'est le dernier.
Donc est-ce que... Et il est certain, par contre, qu'un circuit, un vrai circuit à Paris ou à côté de Paris, peut-être ramènerait un peu de public sur le
Champs-Élysées, sur la place des Champs-Élysées.
Peut-être. Mais même Lionel a tout à fait raison. Il manque dans la région parisienne un véritable circuit. Montlhéry remplissait cet office-là jusqu'à il y a quelques années.
Bon, Trappes-Saint-Quentin, c'est juste un circuit d'essai.
Oui, voilà. Mais bon, on pourrait faire, disons, dans la campagne, en Beauce ou enfin, pas très loin de Paris, un vrai circuit.
Tiens, Angerville, là-bas où il y a le karting.
Par exemple. Et c'est pas loin de Paris. Orly est pas si loin. Angerville, c'est pas. Parce que oui, c'est vrai que là, on a rien, quoi. Il y a rien. Les jeunes qui veulent s'exprimer, ils ont rien.
Ouais. Énorme gâchis, quoi.
Énorme gâchis.
Allez, une petite page de musique, hein, un peu de musique, et puis ensuite on remonte dans nos habitacles. Voilà, 9h54, hein, nous sommes bien revenus à l'heure d'été. Alors on va quand même vous donner le programme des courses à l'hippodrome de Rambouillet, hein, parce que on a eu une émission très chargée ce matin, ce qui fait qu'on va se contenter de vous donner uniquement donc les prochaines réunions hippiques sur Rambouillet. Ça commencera dimanche prochain, donc 6 avril, avec une course PMU. Ensuite, deuxième réunion de la saison le 20 avril. Le troisième, ça sera donc le jeudi 8 mai. Hein, et ensuite, il y aura une grosse journée pour les mamans le dimanche 25 mai. Puis, ça sera dimanche 8 juin avec le prix donc de notre radio RVE. Le dimanche 22 juin, il y aura une course PMU Trophée Vert. Ensuite, ce sera les vacances et puis on reviendra à la rentrée avec deux réunions le dimanche 7 septembre et le dimanche 14 septembre, il y aura une autre course PMU et on finira donc le dimanche 5 octobre à l'occasion donc d'une dernière réunion qui coïncidera avec aussi le prix de l'Arc de Triomphe du côté de Longchamp. Alors, on reste dans les chevaux, mais chevaux motorisés. Les rallyes, ça vous plaît? On en parle beaucoup avec Sébastien Loeb. Hein. Quel champion!
Ça c'est quel champion. Il a une bonne auto aussi. Hein.
Oui.
Un truc qui m'a bien quand même.
Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup plus de rallye maintenant depuis qu'il y a Sébastien Loeb, quoi.
Ben, c'est tout à son honneur.
Oui.
Parce que c'est quand même quelqu'un de sérieux. Mm-hmm. Et il a du talent, c'est clair. Il n'y a rien à dire. C'est certainement le pilote actuellement qui est plus vite que tout le monde. Et puis ça, c'est quand même une autre discipline. Et moi, je tire ma révérence. Mm-hmm. Parce qu'il a prouvé plein de choses. Il a prouvé que sur un circuit, il pouvait aller vite aussi. Et ça, on le voyait plus non plus, parce que à une époque, les gens qui faisaient du circuit ne faisaient que du circuit, et les gens qui faisaient du rallye ne faisaient que du rallye. Or, on s'est aperçu que ce personnage peut faire les deux. Mmh. Et je pense qu'il a fait des tas d'essais avec la Peugeot, la Peugeot Endurance, le proto là, et apparemment, il n'est pas dépaysé. Hein. Mmh. Alors, je trouve que ce garçon. Très bien, très bien. Et en plus, il est hyper sympathique.
Oui, on a vu l'occasion de l'interviewer il y a 3 ans dans vraiment... une remise des prix de fair play. C'est vrai que c'est un garçon sympa.
Et puis en plus, il n'a pas pris la grosse tête. Il est resté lui-même et ça, c'est sympa. Ça.
Et qui a mérité donc son titre de champion des champions français de l'année 2017.
Ah, complètement. Largement. Je pense que oui, il le méritait. Je pense que c'est un honneur qui lui revient. Mm-hmm. Tout à fait.
Un petit mot sur le Paris-Dakar. Bon, je sais que vous n'êtes pas trop Dakar. Le fait que le Dakar cette année n'ait pas eu lieu et parte sur. L'Amérique du Sud l'année prochaine, c'est plus le Dakar, quoi. C'est fini le Dakar. C'est notre épreuve qui.
Ça devrait plus.
Oui, parce que l'essence même du Dakar, c'était la traversée du désert africain, quoi.
Voilà. Et puis ça ressemble à Pékin, je sais pas quoi, à la course Pékin, Paris-Pékin, je sais pas quoi. Et on l'appelle ça alors que c'est là-bas, de l'autre côté. Donc,
ça devait arriver un jour, ça.
Ouais, c'est arrivé. En fait, c'est des histoires politiques, c'est
C'était le risque dans une telle épreuve, quoi.
Ah, mais de toute façon, c'est bien de l'avoir fait. On peut pas condamner les gens qui ont pris la décision d'arrêter le système. Mais c'est dommage, quoi, parce que c'est déjà une page de l'histoire de l'automobile qui tourne aussi, en même temps.
Ouais, c'est dommage aussi pour l'Afrique.
Ah, c'est ça.
Pour l'Afrique,
bien complètement. Parce que là, tous les pays africains qui étaient traversés par le fameux Dakar, justement, pour eux, c'est dramatique.
Tout à fait.
Tout à fait.
C'était fait. Le but était déjà au départ un peu humanitaire. Donc, Thierry Sabine, on se rappelle de Balawan, on se rappelle de ces gens-là qui ont fabriqué le Dakar, en fait, qui étaient des fervents du Dakar et qui n'allaient pas forcément faire de la course automobile. En Afrique. Et ils allaient aussi aider des populations miséreuses.
Ouais. On risque de ne pas repasser donc pour très longtemps en Afrique.
J'ai peur que ce soit... Ouais.
Pierre, le mot de fin pratiquement concernant donc cette émission consacrée en grosse partie ce matin au sport auto.
Oui, et ben, que dire d'autre sinon que nous allons essayer de continuer toute la saison en faisant du mieux possible et puis voilà quoi, on s'entraide dans les uns les autres et finalement c'est sans doute l'essentiel de ce sport quoi, l'amitié et l'entraide qui peut exister entre les gens.
Très bien, merci messieurs. Je voudrais simplement vous rappeler qu'on part à Fort-de-France dans quelques secondes, hein, puisqu'on va retrouver l'émission spécial foot qu'on avait eu, spécial foot antillais qu'on a eu l'occasion donc de faire et de présenter fin janvier sur nos ondes. On avait présenté l'émission spécial sport antillais la semaine dernière, hein, en préambule du direct des 10 km de Rambouillet. On va donc vous rediffuser l'émission spécial foot antillais et puis on va finir une nouvelle fois par à nouveau cet hommage à Thierry Gilardi à qui on a dédié donc nos deux émissions Tribune Sport et Tribune Foot. On a toujours autant de frissons donc à réentendre cette bande son. Voilà, allez, bonne matinée à toutes et à tous et avec beaucoup d'émotion on termine avec à nouveau une petite pensée pour Thierry Gilardi.
Ah, Materazzi qui accroche Zidane. Zidane lui fait remarquer. Mais pourquoi? Il est avec Buffon, tiens. On voit Zizou. Oh Zinedine.
Pas ça, Zinedine.
Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Aïe. Oh non, Zinedine. Il va sortir un carton, Zidane.
Non.
Et c'est carton rouge, oh non. Et voilà ce que je redoutais, c'est épouvantable.
Il est 10h, bon dimanche sur RVE.